la question du Haut-Karabakh date dans la période contemporaine de la sovietisation du Caucase. Staline, pour favoriser la Turquie kémaliste alliée contre les bourgeois, et pour casser les nationalismes locaux, notamment le nationalisme arménien, rétrocède le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan en 1921 et lui donne un statut de région autonome en 1923 dans le cadre de l'Azerbaïdjan soviétique. À chaque fois qu'il y a eu, pendant la période soviétique, des moments de libéralisation du régime, les Arméniens du Haut-Karabakh, majoritaires dans l'enclave, ont tenu à exprimer leur volonté de se rattacher à l'Arménie voisine. Et à chaque fois, il y a eu, de la part du pouvoir de Bakou, des méthodes de répression classiques. En 1988, au moment où il y a eu la perestroïka de glasnost de Mikhail Gorbatchev, les Arméniens du Haut-Karabakh ont exigé, ont voté pour le rattachement de la province, donc la région autonome du Karabakh, à la République soviétique d'Arménie. La réaction de l'Azerbaïdjan a été tout de suite violente, avec des pogroms d'Arméniens à Sumgayit, à Kirovabad et en janvier 90 à Bakou. À partir du moment où les Arméniens du Haut-Karabakh ont manifesté leur volonté de se rattacher à la République d'Arménie voisine, ce sont les Arméniens d'Arménie qui se sont eux-mêmes manifestés et qui sont descendus dans les rues pour exiger le rattachement du Haut-Karabakh à l'Arménie. Et puis aussi par le phénomène de caisse de résonance, toute la diaspora qui s'est alignée sur la position de Stepanakert. Et donc il y a eu un vaste mouvement d'émancipation qui s'est accompagné d'un peu partout dans l'Occident soviétique de ce qu'on a appelé la question des nationalités qui faisait donc son retour sur la scène internationale. Et au moment de la chute de l'Union soviétique en 1991, surtout sous l'effet de ces nationalités, eh bien on a eu de nouvelles indépendances et le Karabakh a proclamé son indépendance de la République d'Azerbaïdjan soviétique en disant qu'on n'a jamais appartenu à la République indépendante d'Azerbaïdjan, donc ils ont proclamé leur indépendance avant même que l'Azerbaïdjan et l'Arménie proclament la leur. La guerre est montée d'un cran, c'est-à-dire avant on avait une situation de guerre, maintenant on a une situation de réelle guerre entre les deux parties, arméniens et azerbaïdjanais. Et cette guerre qui a duré 3 ans jusqu'en 1994 a été remportée par les Arméniens. Les Azerbaïdjanais ont essuyé de lourdes défaites militaires sur le terrain. Le Haut-Karabakh est à 95% sous administration de la République du Haut-Karabakh. Et les Karabakhtis, la population du Karabakh, a créé autour d'elle donc une ceinture de sécurité en forme d'escargot qui lui permet d'éviter les tirs de l'Azerbaïdjan. À partir de 1994, un processus qui avait été entamé depuis 2 ans, mais surtout de 1994, un processus a été mis en place, un processus diplomatique, à la faveur d'un cessez-le-feu qui a été signé en mai 1994, puis confirmé en 1995. Et donc, ce processus diplomatique sous l'égide de l'OSCE, mandaté par le Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, ce processus diplomatique s'est mis en place autour d'un groupe de contact qu'on appelle le groupe de Minsk, co-présidé par la France, la Russie et les États-Unis. Et ce groupe de contact essaie de rétablir la paix dans la région. En l'espace de 22 ans, ils sont arrivés à une sorte de compromis sur le papier qu'on appelle les principes de Madrid, qui serait trop long à expliquer ici, mais en gros, c'est statut contre territoire, donc indépendance contre territoire rétrocédé à l'Azerbaïdjan. Et en même temps, sur le terrain, pas de grand changement. C'est-à-dire qu'en 22 ans, on a une sorte de compromis sur le papier, mais sur le terrain, pas de grand changement. Au contraire, la paix n'a pas avancé et on a même eu pendant des années des violations de cessez-le-feu. Et puis, en avril 2016, donc là, début avril 2016, qu'on a appelé la guerre des 4 jours, une vaste offensive de l'armée azerbaïdjanaise, parce que maintenant tout le monde le sait, tout le monde le dit, une vaste offensive de l'armée azerbaïdjanaise pour casser le front, changer le rapport de force, et en fait, rien n'a changé sur le terrain. Ils ont pris quelques positions en dehors du Karabakh, mais pas de manière à changer la nature du rapport de force. Donc, la communauté internationale a bien entendu rappelé les protagonistes à revenir autour de la table de négociation, à sauver ce qui devait être sauvé. Et si vous voulez, aujourd'hui, après la réunion de Vienne, on a l'impression qu'on a mis en place un système, du moins les contours d'un système pour rétablir la situation de cessez-le-feu et rétablir ce qui s'appelle le processus diplomatique. Pour l'instant, on ne peut pas aller plus loin, c'est trop tôt pour parler, mais voilà la situation.
Et donc aujourd'hui, quelles sont les positions de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie sur cette région ?
On a à chaque fois des positions contraires. Du côté azerbaïdjanais, on met en avant le droit à l'intégrité territoriale. Ces territoires doivent être retourner à l'Azerbaïdjan, à Bakou, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Et du côté arménien, on considère que c'est le droit à l'autodétermination qui doit primer et que les résolutions du Conseil de sécurité, oui, il faut les appliquer. Or, l'Arménie n'est pas citée dans les résolutions du Conseil de sécurité, sont citées uniquement les autorités de facto, les autorités du Karabakh, donc, ou les forces arméniennes locales. Donc, si vous voulez, on a une confusion au niveau du droit. On a deux lectures du droit international, deux normes du droit international s'affrontent, le droit à l'autodétermination du côté arménien et le droit à l'intégrité territoriale du côté azerbaïdjanais. Et le véritable problème, si vous voulez, d'un point de vue sociologique, c'est surtout l'absence d'altérité. C'est-à-dire que les Arméniens sont prêts à jouer la carte du dialogue avec l'Azerbaïdjan et ils veulent un compromis. Ils veulent absolument un compromis, mais un compromis négocié, ratifié, duquel l'Azerbaïdjan ne pourrait pas s'extraire. Mais en même temps, on joue la carte du pourrissement. Et du côté azerbaïdjanais, alors là, on a du mal à y voir clair parce que les Azéris ne veulent pas parler avec les autorités du Karabakh, sauf à condition d'insérer autour de la table la communauté azérie du Haut-Karabakh. Il y a une politique très anti-arménienne à Bakou. Les positions sont radicalement opposées. C'est-à-dire, si l'une des deux parties dit « ok » à un plan, l'autre, vous pouvez être sûr que l'autre, par contradiction, va dire « on n'est pas d'accord ». Et comme l'OSCE ne prend que des dispositions non contraignantes, contrairement au Conseil de sécurité, donc le groupe de contact ne peut exercer qu'un rôle d'influence, de médiateur par définition, mais pas un rôle de contrainte.
Et c'est un sujet qui compte beaucoup au sein de la société en Azerbaïdjan, et c'est un enjeu politique fort dans le pays.
En Azerbaïdjan, il y a l'humiliation de la défaite de 91-94. Mais cette guerre a été voulue par Bakou, qui était mieux armé, mieux équipé que les forces arméniennes. En Azerbaïdjan, on a du mal à y voir clair, parce que l'Azerbaïdjan, en tant qu'État, c'est un État tout neuf. La nation azerbaïdjanaise n'existe pas, elle est en formation. Donc ils ont besoin de l'élément arménien comme ciment identitaire de référence pour jouer la carte d'identité nationale. C'est-à-dire que l'Azerbaïdjan est une identité nationale qui se construit à partir du rejet de l'arménien. Donc ça cimente l'identité nationale. Ensuite, la jeunesse dorée de Bakou, qui vit grâce à la rente pétrolière et gazière, on a un petit peu par-dessus la jambe de cette question de guerre. Ils n'ont pas envie de faire leur service militaire. On envoie souvent des pauvres gars, des gens de 18 ans, 19 ans, faire leur service et aller se battre contre des Arméniens du Karabakh qui, eux, sont plus que déterminés. C'est leur village, c'est leur terre, etc. Donc, de l'autre côté, il n'y a pas la même détermination. Il y a une volonté de retrouver un petit peu d'espoir, de fierté nationale, parce qu'il y a l'humiliation. Mais il n'y a pas la même détermination d'un côté comme de l'autre de la ligne de front. Donc c'est un problème qui est important pour les Azéris d'un point de vue de construction nationale et c'est un problème qui est important pour le pouvoir parce que ça lui permet, en ciblant systématiquement la question du Karabakh, ça permet de faire diversion sur des véritables problèmes économiques et sociaux depuis la chute du prix du baril. Et donc ça, pour la dynastie Aliyev au pouvoir, c'est quelque chose qui compte, ça permet de faire diversion, donc, comme je viens de le dire. Comme ça, on ne parle pas des vrais problèmes. On met tout sur le Karabakh, on met tout sur les Arméniens. Aliyev ne s'en prive pas. Il s'est calmé un petit peu depuis un certain temps, mais pendant des années, il ne s'est pas privé dans sa rhétorique de dire systématiquement que les Arméniens étaient responsables de tout. Et ça en devenait même ridicule, risible, parce que même quand il faisait pas beau, il y avait des blagues en Arménie qui disaient ben voilà, c'est encore les Arméniens qui apparemment, pour Aliyev, sont les responsables de ça. Donc ça devenait une sorte de pathologie, quoi. C'était une sorte de fantasme. Aujourd'hui, Aliyev a tenté quelque chose, ça n'a pas marché, en essayant de reprendre par la force. Bon, c'était pas une opération de type guerre de grande envergure, mais c'était une opération assez musclée, avec d'importants moyens, drones, artillerie, hélicoptères, chars, donc ce ne sont pas des petits moyens, mais il y a une résistance très forte de l'autre côté, et ça s'est traduit par une sorte de statu quo à nouveau sur le terrain. Donc on n'est pas sorti du statu quo, on essaie de sortir par le haut, en reprenant leur voie diplomatique, mais on n'est pas vraiment sorti comme le souhaitait Bakou.
Et vous avez dit donc que l'Azerbaïdjan ne voulait pas discuter avec les représentants du Haut-Karabakh. Ils n'ont pas été invités hier à Vienne, mais est-ce qu'on peut trouver une solution sans en parler avec eux, qui sont les principaux concernés,
Vous avez raison d'insister sur ce point, parce que c'est difficile de faire la paix lorsque le principal des protagonistes n'est pas autour de la table. Ce n'est pas un bon augure pour la paix. Vous ne pouvez pas faire la paix, quel que soit le lieu du conflit, vous ne pouvez pas faire la paix si ceux qui sont sur le terrain ne sont pas autour de la table. Ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, c'est une des particularités des conflits actuels dans le monde. Le conflit du Karabakh est le seul où l'un des deux protagonistes n'est pas autour de la table. C'est quand même aberrant. Je veux dire, entre les conflits voisins qui ressemblent à celui du Karabakh, c'est-à-dire Abkhazie, Ossétie, voire même Kosovo et Transnistrie. À chaque fois, on a les Géorgiens face aux Abkhazes ou des Géorgiens face aux Ossètes, dans le cas de la Géorgie. Ou alors, on a en Transnistrie la Moldavie et puis les autorités de Transnistrie. Au Kosovo, on a eu à l'époque la minorité albanophone du Kosovo face au gouvernement serbe. Et dans le cas, et c'est pour ça que la paix a plus ou moins avancé, plus ou moins réussi, et dans le cas du Haut-Karabakh, on n'a pas cette configuration. On est loin même de cette configuration. L'Arménie joue son rôle d'arbitre, d'influence, comme on lui demande. On lui demande juste dans les résolutions de sécurité du Conseil de sécurité des Nations Unies, on lui demande d'exercer un rôle d'influence. C'est-à-dire, influence, ça veut dire téléphoner, ou alors aller au bout, c'est-à-dire s'asseoir à la table. Donc, au minimum, c'est téléphoner à Stepanakert pour dire, voilà, faites le nécessaire. Ou alors, c'est s'asseoir à la table de négociation à la place de Stepanakert. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu au départ, parce que le Karabakh est signataire du cessez-le-feu de 94 et 95. Ça, c'est important de le préciser. C'est-à-dire que Bakou a signé le cessez-le-feu avec Stepanakert. Donc, il y a eu un début de reconnaissance. Comme Bakou était à genoux, il n'avait pas trop le choix. Mais pourquoi ne pas être resté sur cette position? Et ça, il faut voir du côté arménien. C'est qu'en fait, pour faire simple, le président du Karabakh, qui s'appelait Robert Khocharyan, est devenu le premier ministre de la République d'Arménie, puis le président de la République d'Arménie entre 1998 et 2008. Il est devenu président de l'Arménie. Et donc, les Arméniens, d'un point de vue global, se sont dit, bon, maintenant que le président du Karabakh est devenu président de l'Arménie, on n'a pas forcément besoin d'être autour de la table. Mais c'était une erreur parce que la guerre n'était pas finie, la preuve.
Et il faut évoquer aussi les autres puissances régionales comme la Russie. Quelles sont les relations de Moscou avec les deux pays et quel rôle joue Moscou? Est-ce que c'est un rôle de médiation dans ce conflit?
Moscou est l'ancienne puissance tutélaire. Cette région appartenait à l'Union soviétique. Donc Moscou se sent un droit naturel ou un droit de regard sur cette région, premièrement. Deuxièmement, Moscou est l'allié de l'Arménie, mais le partenaire aussi économique et stratégique de l'Azerbaïdjan. Donc Moscou a un rôle de médiateur bien plus important que les deux autres. Mais on s'aperçoit que Moscou tient à tenir dans une relation d'équilibre Erevan et Bakou, parce qu'elle sait très bien que si le problème est réglé, elle perd de l'influence dans la région. C'est ce qu'elle croit, du moins. C'est ce qu'elle croit à Moscou. C'est ce qu'on croit à Moscou. Ensuite, vous avez d'autres acteurs, comme la Turquie, comme l'Iran, comme l'Union européenne, comme les États-Unis, comme la Chine même. Donc, vous voyez, ce petit bout de terre du Karabakh, en fait, est devenu un problème global. La Turquie joue un rôle négatif dans cette affaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de trouver un terrain d'entente, elle s'est alignée complètement sur les positions de Bakou. Elle a fermé sa frontière de manière unilatérale avec l'Arménie, qui est considéré dans le droit international comme un acte de guerre, mais bon, passons. La Turquie a encouragé Aliyev dans son offensive en avril. Elle a même déclaré par la voix d'Erdogan qu'il fallait soutenir jusqu'au bout, voire Davutoğlu, l'ancien premier ministre turc, qui disait jusqu'à l'apocalypse. Qu'est-ce que ça veut dire pour un pays membre de l'OTAN de tenir des propos aussi détonnants, aussi irresponsables que ça? Donc c'est dangereux. L'Iran, maintenant que l'Iran est revenu dans le jeu international, l'Iran cherche à pouvoir acheminer ses marchandises, ses hydrocarbures, etc., sur les marchés européens. Donc l'Iran a besoin d'avoir au moins un espace autour d'elle qui soit plus ou moins stable, plus ou moins en paix, puisque quand on voit que l'Afghanistan, ce n'est pas en paix, d'autre côté, c'est l'Irak et la Syrie, c'est loin d'être le cas. La seule voie d'issue pour acheminer ces hydrocarbures et le reste, c'est par le Caucase. Et donc, si on a un Caucase en feu et en flamme, ce n'est pas bon pour le commerce en Iran et ce n'est pas bon aussi pour les investisseurs occidentaux. Donc il faut absolument que le Caucase soit pacifié, d'où l'investissement des Européens et des Américains aussi dans la région, et même des Russes, qui ont des projets avec l'Iran par l'Azerbaïdjan, mais les Occidentaux privilégient aussi la voie plutôt du côté Arménie et Géorgie. Donc il y a beaucoup d'enjeux dans cette affaire, qu'on ne voit pas actuellement, mais qui sont indirectement liés à l'affaire du Karabakh.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que, par exemple, Moscou envoie des troupes sur place?
Dans les principes de Madrid, il est prévu, c'est le sixième point de compromis, il est prévu qu'une fois que les cinq premiers points ont été mis en place, il est prévu donc de déployer une force d'observation internationale. Alors là, on est dans un problème un peu délicat. C'est que les Iraniens ne veulent pas d'une force internationale dans la région. Ils ne veulent pas de force de l'OTAN ou des pays membres de l'OTAN dans la région. Les Russes voudraient être les seuls à pouvoir déployer une force. Les Turcs aimeraient bien y être, mais ça c'est impossible, l'Arménie n'en voudra pas. Donc, on est une situation un petit peu délicate. Ensuite, la question est de savoir quel va être le rôle de cette force, si cette force elle se met en place. Ce qui est vraiment très loin d'être le cas actuellement. Hein. On en est très loin. Mais en gros, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire force d'observation, force capacité de nuisance ou pas, on ne sait pas. En fait, il y a deux logiques qui s'affrontent. Les Russes voudraient, à terme, déployer une force d'intervention, ce qui n'est pas gagné. Mais bon, c'est la volonté russe. Mais les Occidentaux, Français et Américains surtout, Américains donc, eux voudraient mettre en place un système de surveillance, d'investigation, de surveillance, de vidéosurveillance, le long de la ligne de contact. Et cette option qui est en train de prendre le dessus, apparemment, le résultat de la réunion de Vienne semble plutôt s'orienter vers celle-ci, vers cette disposition, même si on ne l'a pas encore définie, mais par sa définition même, ça ressemblerait plutôt à l'idée d'un mécanisme d'investigation. Parce qu'en fin de compte, personne n'a envie de voir une guerre à nouveau éclater dans la région. Ça suffit de la Syrie, on a l'Ukraine au nord. La Syrie, on est loin, très très loin encore, et l'Irak, très très loin d'en finir. Donc un nouveau foyer de tension qui impliquerait encore une fois des forces opposées, c'est-à-dire Turquie-Russie ou Turquie-Iran, ne serait vraiment pas bon pour le commerce international, pour la paix dans la région et donc pour la paix mondiale.